Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Jean-François Mattei, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'université de Nice, Sophie-Antipolis, et vous poursuivez depuis plusieurs années une réflexion sur notre monde, que vous considérez comme étant devenu un peu immonde, sur notre modernité qui prend le risque de la barbarie. Et nous vous avions reçu pour deux ouvrages absolument essentiels, me semble-t-il, qui sont d'une part « La barbarie intérieure », donc publié au PUF, en 1999, et puis le second, donc « Le regard vide », qui est un essai sur l'épuisement de la culture européenne, publié chez Flammarion en 2007. Et donc, dans ce travail, dans le travail qui est le vôtre, vous insistez particulièrement, me semble-t-il, sur un, le processus de formation, de mise en forme de l'âme, et c'est ce que vous aviez fait dans « La barbarie intérieure », et en vous appuyant sur Platon en particulier, qui parle de ce bourbier barbare duquel il importe de sortir, avec le risque qui est sans doute aujourd'hui le nôtre de la barbarie que vous considérez comme à la fois une désertion de soi et une régression du moi. Et donc, vous insistez beaucoup sur ce premier aspect. Et le deuxième aspect, me semble-t-il, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est sur ce monde donc, qui est devenu de moins en moins accueillant, de moins en moins ouvert, ce monde moderne. Et donc, vous revenez aujourd'hui sur ces questions-là dans votre dernier ouvrage, donc « Le sens de la démesure », publié chez Sulliver en 2009, en essayant de faire une généalogie de cette démesure, en vous référant à l'un de vos piliers ou de centres de réflexion ou de philosophie essentiels, à savoir la philosophie grecque. Et il me semble qu'au travers de ce livre-là, il y a une question qui traverse votre pensée et qui traverse ce livre et qui pourrait être la suivante. Quel est ce sens de la mesure et ce respect de l'ordre du monde que les Grecs avaient et que nous, nous n'avons plus ou que nous avons, nous modernes, d'une manière ou d'une autre, perdu. Donc vous partez du point de départ, c'est-à-dire de ce XXe siècle qui, dites-vous, est le siècle de la démesure, des mesures de la politique, des mesures de l'homme, des mesures du monde, avec une raison qui a eu tendance à l'autodestruction. Et donc, vous voulez en revenir ou explorer ou bien comprendre ce qu'était cette raison limitée des Grecs. Alors, ma première question est la suivante. Quelle est, selon vous, l'importance d'Ulysse ? Parce que la figure d'Ulysse traverse, et au début et à la fin, mais traverse tout votre livre. Quelle est donc l'importance de la figure d'Ulysse dans l'idée suivant laquelle sa leçon, la leçon d'Ulysse, serait la mesure de l'homme, dites-vous, et la fidélité à sa terre natale?
Oui, vous avez raison de partir sur ce thème d'Ulysse que j'ai suivi dans l'ensemble de l'ouvrage. Un ouvrage qui est paru dans une collection chez l'éditeur Sulliver, donc, mais une collection qui s'appelle Archéologie de la modernité. Donc on essaye dans cette collection de remonter aux fondements justement principiaux, archéologie de la modernité. Et là en particulier, je me suis demandé comment, à partir de la démesure du monde moderne, qui a été dénoncée ou en tout cas étudiée par la plupart des grands penseurs, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient croyants ou incroyants, que ce soit Adorno ou que ce soit Bernanos, que ce soit Camus ou que ce soit Arendt, ou que ce soit Heidegger quand il dénonce les excès de la technique moderne, j'ai essayé de voir, en faisant une sorte de flashback, en partant dans le premier chapitre d'un constat de la démesure moderne, comment on pouvait essayer de penser ce qu'a été la mesure, et donc la démesure, chez les penseurs grecs. Alors vous parlez d'Ulysse très justement, puisque Ulysse est à la fois, curieusement, l'homme de la démesure, c'est comme ça que le voient Horkheimer et Adorno, en particulier en faisant allusion à son retour à Ithaque, après avoir bandé son arc, n'est-ce pas, lorsqu'il tue tous les prétendants, dans une scène absolument affreuse, où tout le monde baigne dans le sang, je crois que Ulysse a du sang jusqu'à ses genoux, enfin, une scène absolument atroce, et Horkheimer et Adorno, en 1947, dans la dialectique de la raison, disent que Ulysse est le modèle même de l'homme bourgeois, de l'homme européen ultérieur, de l'homme de la démesure rationnelle, ce qui me paraît évidemment totalement faux, parce qu'il joue sur la démesure, disons, de la violence d'Ulysse, pour le généraliser, la démesure, disons, de l'Europe ou de la rationalité. Mais pour revenir à votre question, la mesure d'Ulysse vient du fait que non seulement c'est un homme sage, c'est un homme mesuré, on le voit sans arrêt, dans l'Iliade comme dans l'Odyssée, mais évidemment surtout dans l'Odyssée, et c'est un homme qui, comme l'a remarqué très justement Camus, a su, mais déjà Nietzsche avait dit quelques phrases intéressantes là-dessus, qui a su s'arracher à la démesure des dieux, par exemple la démesure de l'amour de Calypso, ou à la démesure des enchantements de Circé, pour revenir à Ithaque, c'est-à-dire pour faire passer son épouse Pénélope et son fils Télémaque, et évidemment son propre royaume, avant le royaume imaginaire ou illusoire que pouvait lui donner Calypso la cacheuse, hein, puisque Caluptaïn en guerre, ça veut dire celle qui cache, et évidemment Circé. Et en même temps, voyez par exemple l'épisode des sirènes. Ulysse accepte de se laisser charmer par le chant des sirènes, mais il demande à ses amis, à son équipage, de le ligoter au mât. Donc il reste toujours dans les limites humaines, n'est-ce pas, représenté symboliquement par les liens. Fondamentalement, je crois que le personnage d'Ulysse est donc le personnage du grec à travers Ulysse, parce que Ulysse représente pour les Grecs anciens le modèle même de tout homme, c'est celui qui sait toujours accorder la place qui revient aux limites morales, intellectuelles, ontologiques de l'existence humaine.
Alors vous avez cité effectivement deux visions, deux conceptions d'Ulysse, donc celui de la démesure ou celui de la mesure, donc vous penchez plutôt du côté de la mesure. Alors vous signalez au début dans l'introduction, parce que vous avez parlé d'Horkheimer et Adorno, que ces deux-là ont bien mis en évidence, juste après la guerre, dans la dialectique de la raison, que la raison est plus totalitaire, je les cite, que n'importe quel système. Donc il y a bien l'idée aussi qu'il doit y avoir un devoir de limitation, donc
de la raison.
De mesure, voilà, de la raison. Mais Ulysse est une figure ancienne, donc on est dans cette généalogie donc de la mesure ou de la démesure, enfin telle que vous le citez, mais quelles sont les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette figure d'Ulysse ?
Bien, plusieurs auteurs en ont parlé, que ce soit Nietzsche, que ce soit Camus, que ce soit Arendt et quelques autres, du côté de la littérature évidemment, mais si nous restons du côté de la philosophie, je crois que la leçon qu'on peut en tirer, c'est que nous vivons dans un univers d'hubris, pour utiliser le mot grec, qui est d'ailleurs passé en français souvent, qui dénote la démesure de la parole, des actions, du comportement, de l'existence même, peut-être même la démesure du monde, avec tous ces éclats, avec tous ces déchaînements d'énergie qui définissent peut-être le monde. Quelle est la leçon que l'on peut en tirer ? C'est-à-dire que il me semble que nous vivons, vous le remarquiez dans votre question, dans un monde qui est totalement démesuré, la démesure économique, on le voit avec les crises économiques dont nous souffrons, la démesure de la technique qui s'emballe sans cesse et qui ressemble à une sorte de chien fou ou de locomotive folle qui part en avant à toute allure sans savoir dans quel sens elle se dirige, des mesures aussi de la publicité, des mesures de l'information, des mesures de toutes les formes d'actions ou d'objets ou de comportements humains, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le social, que ce soit dans le terrorisme, on pourrait continuer longtemps la litanie. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'au XXe siècle, et dans ce début de XXIe siècle où nous sommes, la plupart des auteurs, parfois de droite, parfois de gauche, si on veut les cataloguer, ont dénoncé cette démesure avec parfois des contradictions. Vous citiez Horkheimer et Adorno dans leur ouvrage de 1947, La dialectique des Lumières ou La dialectique de la raison, dans lequel ils reprochent finalement la raison, dont pourtant ils se réclament en tant que marxistes, d'être démesurée et de détruire, quand elle est systématique, l'équilibre et la mesure du monde, ce qui est assez curieux comme critique venant de marxistes, puisque par définition, le marxisme est un rationalisme strict qui veut précisément faire progresser le monde jusqu'à une sorte de fin de l'histoire qui implique bien un système. Alors, sans revenir sur la critique du marxisme, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même, pointant sous cette critique, toujours cette idée de mesure, ou cette idée de métrion ou de métrone, mot grec qui signifie la mesure, et que les Grecs ont toujours mis en parallèle, ou en couple plus exactement, avec l'hubris. C'est-à-dire que, je le dis au début de mon ouvrage, il me semble que la catégorie fondamentale de la pensée grecque et peut-être de notre pensée en tant qu'elle est héritière plus ou moins de la pensée grecque, c'est le couple hubris-diké. Hubris, c'est la démesure. Diké, c'est la déesse de la justice, en tout cas de la justice chez les hommes. Elle est elle-même la fille de Thémis, qui est la divinité cosmique de la justice, mais pour les dieux et pour le monde. Diké est sa fille. Dikaion, ça veut dire juste, tout simplement. Dikaionesti en grec, c'est juste. Et donc Diké, c'est la justice dans la cité, c'est la justice chez les hommes. Et elle fait pendant toujours à l'hubris qui, chez les dieux d'ailleurs aussi, comme chez les hommes, a toujours tendance à sortir de ses propres limites.
Et donc ce couple-là, donc effectivement, vous en parlez au début de votre ouvrage, ce couple-là donc entre la démesure d'un côté et la justice de l'autre, donc est très présent dans la pensée grecque. Elle semble même structurer toutes les...
Il me semble, oui.
Voilà, toutes les oppositions, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée plus précise de cette démesure grecque et quelles sont, dans la philosophie grecque, les conséquences de cette démesure? À partir de quel moment est-ce qu'on sort de ses gonds? À partir de quel moment est-ce qu'on sort de la mesure pour tomber dans la démesure? Et quelle est la sanction pour les Grecs de cette démesure?
Je dirais que ce qui a fait le génie de la Grèce, ce n'est pas très original ce que je vais dire, puisque ça a déjà été traité par beaucoup d'auteurs, et en particulier par de grands auteurs ou de grands penseurs comme Hölderlin. Hölderlin, dans ses remarques sur Œdipe et sur Antigone, fait remarquer que ce qui était naturel, natal, dit-il dans son vocabulaire, chez les Grecs, c'était précisément la démesure. Les Grecs étaient des enfants, ou les Achéens, si on leur donne leur vieux nom, étaient des enfants de la démesure et d'une violence dont Adorno et Horkheimer n'ont pas tort de dénoncer les excès, comme par exemple dans l'Iliade ou dans l'Odyssée, ou tout simplement dans la tragédie grecque. Donc il semblerait que la patte humaine dont étaient faits les Grecs était la démesure. Mais, si je puis dire, ils ont fait un bon usage de cette démesure. Comme dirait Pascal, on peut faire un bon usage des maladies. La maladie de la Grèce, fondamentalement, je crois que c'était la démesure. Mais ils ont réussi, en travaillant sur cette démesure de l'intérieur, à développer la science, à développer la tragédie et donc à inventer le théâtre, à développer la philosophie et la morale, à développer surtout la politique. Si ce sont les Grecs, Platon et Aristote en premier lieu, qui ont développé pour la première fois une réflexion sur la politique, c'est-à-dire sur la police, sur la cité, c'est précisément parce qu'ils avaient le sentiment, et qu'ils le vivaient quotidiennement, que la vie des hommes était une vie qui était traversée par des courants de violence et de démesure qu'il fallait absolument canaliser. Et à mon avis, ce qui fait la grandeur de la civilisation grecque, c'est qu'elle a réussi, non pas à éliminer ou à refouler cette démesure, comme Freud l'a montré, on n'arrive jamais à refouler totalement l'inconscient, on n'arrive jamais à refouler totalement la démesure ou la violence, mais à la canaliser. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que la tragédie grecque? Prenons l'exemple du théâtre grec, chez Échille, chez Sophocle, chez Euripide. C'est essentiellement la possibilité de transformer la démesure native de l'homme et peut-être de la condition humaine qui elle-même est issue de la condition cosmique, de la violence de l'univers, comme on le voit chez Hésiode, par exemple, de la canaliser pour en faire des œuvres véritables et pour en faire un enseignement que les Grecs appelaient justement une paideia, c'est-à-dire une formation de l'homme, une formation de l'enfant, disons une culture, mais au sens fort et noble du terme.
Donc il y a, c'est ce que vous dites, hein, c'est ce qui traverse effectivement tout votre ouvrage, il y a ces deux éléments-là, donc à la fois, on peut appeler ça une forme de toxicité, enfin de la démesure, avec les risques que cela suppose, mais en même temps, la conscience que cette démesure en est une, qu'on est au-delà de la mesure naturelle, de l'ordre cosmique. Alors comment est-ce que vous pouvez considérer que cet équilibre-là, qui a été trouvé par les Grecs, et qui a donné naissance, comme vous le dites, à la fois à la science, à la tragédie, à la philosophie, à la politique, qui est à la fois dans l'ordre et dans le désordre, à la fois dans la mesure et dans la démesure, comment est-ce que vous considérez que cet équilibre-là a été aujourd'hui perdu, d'une certaine façon? Et deuxièmement, qu'est-ce que cette philosophie peut nous apprendre ou peut nous donner à penser quant à la démesure qui serait la nôtre?
Cet équilibre est d'autant plus perdu aujourd'hui que l'on ne sait plus ce que c'est que la démesure, justement. Et donc, on ne sait plus, en quelque sorte, l'apprivoiser ou la maîtriser. Je crois pouvoir dire que la plupart des grands penseurs, et pas simplement grecs, mais européens par la suite, et jusqu'à des gens comme Heidegger ou comme Albert Camus, ont remarqué que la démesure était toujours première. Car ce qu'on appelle la démesure, encore une fois ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est essentiellement l'ensemble des énergies du monde, qui est démesuré, la naissance des étoiles, la disparition des trous noirs, les libérations d'énergie cosmique, ou même simplement sur la Terre, les phénomènes de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, sont absolument démesurés, c'est-à-dire ne sont pas à notre échelle. Donc la démesure, pourrait-on dire, si on devait en donner une définition, c'est l'échelle même du monde. Mais les Grecs ont pensé le monde, non pas sous cette échelle d'une démesure initiale, mais d'une démesure maîtrisée, puisque depuis l'époque à peu près de Pythagore ou des Pythagoriciens, les Grecs entendent par monde, cosmos, quelque chose qui est, comme dirait Baudelaire dans Invitation au voyage, ordre et beauté. C'est-à-dire que dans l'idée de cosmos, vous avez l'idée de la beauté du monde, de la grandeur du monde, même de la sublimité du monde, et en même temps l'idée d'un ordre, c'est-à-dire d'une organisation interne sous forme de loi qui arrive à maintenir la démesure dans ses propres limites, si j'ose dire, qui l'empêche de se développer et de franchir les bornes qui risqueraient de détruire même la vie ou de détruire même le monde. Donc, il ne s'agit pas de rejeter la démesure ou de la repousser. Camus dit à un certain moment dans L'homme révolté qu'il faut que la démesure crée sa propre mesure, c'est-à-dire que Camus avait parfaitement compris que c'est de l'intérieur de la démesure que la mesure peut naître. Ce n'est pas de l'extérieur, comme si on voulait rajouter à je ne sais quel couvercle à une marmite d'eau bouillante, n'est-ce pas, pour l'empêcher de continuer à bouillir. Non, c'est en réduisant le feu de l'eau bouillante, si je puis dire, en permettant à l'eau bouillante de se calmer, que la mesure va naître. Et donc, l'idée des Grecs, on le voit très bien par exemple chez Hésiode, c'est que la mesure vient de la démesure. Prenons le cas d'Hésiode. Quand vous prenez la théogonie, c'est-à-dire mot à mot l'engendrement des dieux, ou plutôt l'engendrement des époques du monde. Hésiode insiste sur le fait qu'au début est une sorte de bouche d'ombre, comme dirait Victor Hugo, qu'il appelle le chaos, qui vient d'un mot grec signifiant ouvrir la bouche, tout simplement, ou bâiller, donc d'une sorte de grand bâillement, dirait là aussi Baudelaire, et de ce trou noir initial vient naître d'abord des forces titanesques, c'est-à-dire Gaïa, Uranos, Chronos, qui sont des divinités anciennes, des divinités chthoniennes, des divinités d'une violence absolument cosmique qui se déchire totalement. Mais de cette démesure initiale vont venir, à partir de la troisième génération, c'est-à-dire celle de Zeus, le monde des Olympiens, qui va refouler les titans, c'est-à-dire les forces de la démesure, par exemple Prométhée, dans le Tartare, tout à fait au fond du cosmos, dans les sous-sols, si je puis dire, du cosmos, pour instaurer une ère, l'ère de Zeus. Zeus, c'est un terme grec et même indo-européen qui signifie à la fois la vie et la lumière. Ça donnait en latin dies ou deus. Et dies, c'est le jour quotidien, c'est le jour lumineux, mais en même temps, c'est la mesure de Dieu. Et donc, cette démesure, d'une certaine manière, en créant sa propre mesure, se discipline et se maîtrise elle-même. Et donc l'idée grecque fondamentale que nous avons complètement perdue de vue aujourd'hui dans notre culture, c'est qu'il faut utiliser les forces de l'univers, et donc les forces de l'homme, puisque l'homme n'est qu'une partie de l'univers, extrêmement mince certes, mais une partie tout de même, afin de permettre de faire venir au jour, je dis bien au jour, hein, Zeus, au jour lumineux, des œuvres qui donnent un sens à l'existence en quelque sorte.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc juste après. Nous reprenons notre entretien avec Jean-François Mattei autour de son dernier livre, Le sens de la démesure. Alors, ce qui nous a intéressé dans la première partie d'entretien, c'est que vous avez bien souligné, me semble-t-il, deux choses. La première, c'est que la démesure est bien la maladie chronique de la graisse, donc considérée comme une maladie, première chose. Et deuxièmement, vous avez insisté aussi sur cette idée suivant laquelle la démesure est première et que ce n'est qu'au sein même de la démesure que naît la mesure. Alors,
exactement, si vous me permettez. Exactement, allez-y. Comme c'est au sein des anciennes divinités, à savoir Uranos, le monde, et Cronos, son fils, qui se déchirent d'ailleurs entre eux, que Zeus, qui en est issu, va faire apparaître un nouveau monde de lumière et de mesure. Donc c'est du fin fond du cosmos lui-même, ou des périodes cosmiques, que la mesure vient à naître.
Alors, je voudrais vous interroger sur ce texte de Nietzsche que vous citez deux fois, donc qui est un paragraphe du Gai Savoir, paragraphe 124, et où il dit, donc, « Nous avons rompu », c'est Nietzsche qui parle, enfin, nous les modernes, « Nous avons rompu les ponts derrière nous, plus encore, nous avons rompu la terre derrière nous. Mais il viendra des heures où tu reconnaîtras que l'océan est infini et qu'il n'y a rien de plus effrayant que l'infinité. »
C'est-à-dire la démesure, c'est-à-dire l'absence de limite.
Voilà. Alors justement, c'est ma question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la modernité se caractérise peut-être essentiellement par une inversion ? C'est-à-dire qu'on a considéré, vous avez considéré que pour la Grèce et pour la pensée grecque, la démesure était première et de cette démesure naissait la mesure. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'avec la modernité, c'est la mesure, la raison qui organise, la raison qui agence et qui donne l'histoire et le progrès, qui est ? C'est la raison qui est première et la démesure ne sera qu'un aléa qui sera corrigé par la raison.
C'est très juste,
par la raison.
Ce que vous dites est très juste. C'est exactement la thèse que soutient Hölderlin et qui a été reprise par Heidegger et quelques autres, mais retrouvée aussi par Nietzsche, retrouvée aussi par Camus ou par Hannah Arendt. C'est-à-dire que ce qui nous sépare des Grecs, dont nous sommes pourtant issus, avec le biais du relais romain, comme dirait Rémi Brague, c'est que les Grecs sont partis d'une démesure et ont réussi à constituer une mesure. Dans la politique, dans la morale, dans la tragédie et dans la science, bien entendu, à partir de l'ordre du monde et de toutes les relations cosmiques. Mais en même temps, les modernes, disons les Européens, sont partis d'une, à la fois de la mesure grecque et de la mesure juive et chrétienne, enseignée en particulier par le Nouveau Testament, et de cette mesure, ils ont tiré exactement le contraire. Alors que les Grecs tiraient la mesure de la démesure, nous tirons la démesure de la mesure, c'est-à-dire nous faisons exactement le processus inverse. Et vous faites bien de citer cette remarque de Nietzsche dans le paragraphe 124 du Gai Savoir, qui précède juste le fameux paragraphe 125 sur l'insensé qui annonce la mort de Dieu. Donc les deux paragraphes se correspondent bien. Et dans ce paragraphe, mais il y a aussi d'autres textes de Nietzsche qui recoupent cette intuition nietzschéenne, Nietzsche fait remarquer que le vaisseau du monde moderne a rompu tous ses liens avec la Terre. Il est perdu dans un océan infini. Il représente symboliquement l'infinité de la science, l'infinité de la technique, l'infinité des désirs humains qui n'ont plus de limites et qui n'ont même plus de cap. Je pense à un texte fameux de Jacques Derrida qui s'appelle « L'autre cap » où Derrida dit qu'il faut supprimer même l'idée de cap. Ce qu'il appelle dans son vocabulaire « un autre du cap » et pas simplement « un autre cap ». C'est-à-dire qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de capitaine, qu'il y ait donc de quelqu'un qui dirige un navire, qui suivrait un cap, quel que ce cap soit mis sur l'Amérique, sur l'Inde, sur l'Asie, sur ce que vous voulez, le cap sur le monde. Mais s'il n'y a plus de direction à prendre, s'il n'y a plus de cap, si on est véritablement perdu sur la mer de l'infini ou sur l'océan de l'infini, comme dit Nietzsche, à ce moment-là, on est en plein nihilisme. C'est-à-dire que rien n'a de sens, puisque sur les trajets maritimes, si je puis dire, quand vous n'avez plus d'étoiles qui montrent le chemin, quand vous n'avez plus de sextant, quand vous n'avez plus, on dirait aujourd'hui, de GPS, c'est-à-dire quand vous n'avez plus d'orientation, ce que signifie le mot français « sens », à la fois dans le sens d'une direction et d'une signification, eh bien, rien n'a de sens, précisément, c'est cela que Nietzsche annonce comme nihilisme, c'est-à-dire comme triomphe de l'inquiétude, du triomphe de la démesure, du triomphe du hubris, qui se satisfait d'elle-même dans ses développements économiques, politiques, techniques, scientifiques, sans qu'il y ait nulle part ni un cap à tenir, ni une signification à tirer.
Alors, il y a bien, donc, dans, pour le faire très vite, dans la modernité, ou dans les philosophes de la modernité, ceux qui souhaitaient pousser plus encore cette volonté de s'affranchir, de se désancrer, de rompre avec tous les amarres, et même de supprimer tous les caps, comme vous le citiez, et puis tous ceux qui ont cherché, vous citiez Arendt, Hölderlin, Nietzsche sans doute aussi, qui souhaitaient mettre un peu d'équilibre, de revenir à plus de mesures, à peut-être retrouver une part d'ancrage et d'héritage. Alors, comment est-ce qu'on réussit à concilier, si c'est possible, cette pensée grecque, donc de l'ancrage ou de la mesure qui naît de la démesure, avec une pensée moderne? Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité des deux?
Je ne crois pas qu'il y ait incompatibilité, parce que la modernité a la possibilité quand même de réfléchir de façon critique sur elle-même et de reprendre, c'est peut-être cela aussi qu'on appelle la post-modernité, et de reprendre des éléments anciens que l'on avait cru révolus, voire même obsolètes, pour les transformer en tant que tels. Je termine par exemple dans mon dernier chapitre, dont j'ai emprunté le titre à Camus, puisque mon premier chapitre s'appelle « L'exil d'Hélène », qui est le titre du fameux texte de Camus dans l'été, et mon dernier chapitre s'appelle « Le retour d'Hélène ». J'essaie de montrer que Hélène, c'est-à-dire la limite, c'est-à-dire la mesure, peut revenir chez nous. Et je prends deux exemples. Un exemple cinématographique et un exemple littéraire. L'exemple cinématographique, c'est l'exemple du célèbre film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, dans lequel on voit la démesure de la violence des animaux hominidés au début donner naissance à l'humanité. Mais cette humanité se rejette à son tour dans la démesure avec l'exploration du cosmos, puisque c'est un ouvrage, c'est un film de science-fiction, le film de Kubrick, et on s'aperçoit que à la fin du film, comme à la fin du roman qui en a été tiré, on revient d'une certaine manière sur Terre, donc c'est un retour presque nietzschéen ou presque lycéen à Ithaque. On s'est retrouvé à la fin du film de Kubrick sur la planète Jupiter, vous voyez le symbole. Donc là, on est en pleine démesure. Et dans le dernier plan du film, dans la dernière séquence du film, on voit un enfant des étoiles, une sorte de fœtus, les yeux grands ouverts, qui représente d'ailleurs le personnage principal, qui revient sur Terre et qui regarde pensivement la Terre comme si la condition humaine revenait à toujours retrouver ses propres limites, retrouver son Ithaque, en quelque sorte, retrouver sa mesure. Et j'ai pris aussi un texte relativement peu connu, d'un des plus grands écrivains américains, en tout cas reconnu par les américanistes, qui s'appelle Eudora Welty. C'est une écrivaine des années 50-60, une écrivaine du Sud, du monde de Faulkner, qui a écrit un texte absolument admirable dans lequel elle montre comment la mesure du cosmos, la mesure de l'équilibre, peut être détruite en un instant par en particulier le grand peintre animalier Audubon, qui va tuer un héron qui vient se poser au bord d'un étang. Et il y a une description absolument admirable sur le plan littéraire et sur le plan poétique par Eudora Welty, encore une fois, cet écrivain qui a d'ailleurs été traduit chez Flammarion, sauf erreur de ma part, et qui aujourd'hui commence à être considéré dans les pays anglo-saxons comme l'un des 5 ou 6 grands écrivains du XXe siècle. Elle est encore relativement peu connue en France. Et cette nouvelle, qui est assez courte, elle fait une dizaine de pages, est absolument extraordinaire parce qu'elle montre comment, à partir de la mesure du monde, peut naître une démesure excessive de l'être humain, y compris dans l'art, mais comment aussi, à partir de cette démesure, si elle est corrigée, ne serait-ce que par la littérature de cet écrivain, si elle est prise en main, on peut en faire un usage non seulement modéré, mais à la fois artistique et éthique.
Donc vous considérez que cette post-modernité dont on parle, enfin, qui est considérée par beaucoup comme une forme de désacralisation de la modernité elle-même, peut accueillir des pensées ou des bouts de pensée ou des bouts de conscience antérieurs à la modernité comme la pensée grecque.
C'est en fait ce qui se passe, parce que ce qu'on appelle la postmodernité, pour autant qu'on puisse définir le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de recul. Encore que nous parlions de l'Antiquité, oui, nous avons le recul de 2000 ans ou 2500 ans. Ça a un sens, mais parler de postmodernité pour définir une époque que nous sommes en train de vivre, on ne sait même pas si la modernité a eu lieu, comme le disait un sociologue fameux. Mais si l'on admet quand même, depuis que Jean-François Lyotard a utilisé cette expression de postmodernité, que nous vivons dans une sorte de rupture avec les grands idéaux fondamentaux de la modernité, en particulier la croyance dans un développement indéfini de la raison, on peut effectivement penser que la période au moins transitoire qui est la nôtre aujourd'hui, peut nous inciter à retrouver dans le passé, et pas simplement en philosophie, en littérature, en religion, mais aussi dans l'art, dans la musique, des possibilités de créer des choses nouvelles et de renouer le film. Vous citiez tout à l'heure Nietzsche, il y a un texte de Nietzsche tout à fait étonnant dans les fragments posthumes, où Nietzsche, parlant de son époque, qui est, vous le citiez tout à l'heure en parlant du paragraphe 124 du Gai Savoir, qui est en rupture complète d'ancrage et en rupture complète d'enracinement, en rupture complète d'Ithaque, disiez-vous tout à l'heure, eh bien cette époque, dit Nietzsche, il faudra la dépasser. Et il ajoute, il faudra quelques milliers d'années peut-être pour renouer le fil. Et il dit ironiquement, qu'importe quelques milliers d'années. Alors ça nous importe peut-être à vous et à moi parce que nous ne connaîtrons pas cela. Mais il y a quand même cette idée chez Nietzsche que tôt ou tard, l'être humain, pour autant que l'être humain continuera à exister, arrivera à renouer le fil. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Est-ce que c'est le fil d'Ariane, pour reprendre un mythe grec ? Est-ce que c'est le fil du cosmos ? Est-ce que l'on sera vraiment un enfant du cosmos ? Et non pas un enfant non reconnu, ou est-ce que ça sera le fil tout simplement de l'humanité, ou le fil de la religion peut-être. On parlait tout à l'heure de Camus, le début du premier homme s'appelle quand même « Recherche du père », avec tout ce que cela implique dans la recherche de la paternité, qui n'est pas simplement humaine et sociale, mais qui est peut-être aussi artistique et religieuse.
Écoutez, donc, cette réconciliation, ces fils renoués auxquels on peut imaginer que nous aboutissions d'une façon ou d'une autre, j'incite donc tous nos auditeurs à pouvoir penser à cette réconciliation là en lisant donc Le sens de la démesure, votre dernier livre donc qui est publié chez Sulivert. Et donc Jean-François Mattei, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Et je vous remercie de votre invitation.
C'est moi. Merci.